Alors ce matin, on a parlé du profil. Oula, on a parlé du profil du chrétien. Hop là, alors là maintenant, vous voyez, même ma zapette, elle a pris l'air de Dunkerque et elle s'arrête plus maintenant. Hein. Voilà. Bon, ce serait bien si elle m'obéissait au moment nécessaire. Voilà, on va y arriver. Ça fait une petite récap. Hein. Hop là. Voilà. Bon. Ah là là, faut pédaler encore. Hop, là, j'enchaînais un petit peu. Voilà. Ouf. Bon, on a parlé profil du chrétien, question de caractère, les béatitudes, Matthieu 5, 3 à 12. On a vu ce matin le rôle et la mission du chrétien, une question de vision, versets 13 à 16. Comment est-ce que je me vois et comment est-ce que Jésus voit le chrétien et la communauté. Cet après-midi, le gros morceau, ça va être le point 3, le chrétien et son échelle de valeur, une question d'intégrité, Matthieu 5, 17 à 48. Si vos amis vous posent la question, c'est quoi un chrétien évangélique ou un protestant évangélique? Qu'est-ce que vous lui répondez? Attends, va voir mon pasteur, il va t'expliquer. Non, un évangélique, c'est quelqu'un, qui croit que on ne naît pas NAIT chrétien, mais on le devient par un acte de foi librement consenti. Deux, un évangélique, c'est quelqu'un qui croit que la croix de Jésus, ça, c'est le centre de la véritable spiritualité biblique. On parle du crucicentrisme. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est fondamental dans la piété du chrétien. Troisièmement, un évangélique, c'est quelqu'un qui croit que la Bible est la parole de Dieu. L'inspiration et l'inspiration verbale, littérale, plénière de l'Écriture sainte qui fait autorité en matière de foi et de vie. Et en quatrième lieu, un évangélique, c'est quelqu'un qui croit que le chrétien, à titre individuel, comme la communauté en tant qu'église, ont pour mission, pour vocation, de proclamer le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Et puis, en cinquième lieu, on peut dire qu'un évangélique, c'est quelqu'un qui prône des valeurs éthiques ou morale compatible avec l'évangile. Et l'échelle de valeur dont nous allons parler dans Matthieu 5, versets 17 à 48, constitue en quelque sorte le référentiel moral, éthique, auquel le membre du royaume de Dieu adhère et se réfère. Et on va voir que derrière l'éthique, il y a une théologie. L'éthique, c'est la manière dont je me comporte, la manière dont je me conduis, la morale, si vous voulez. Chez moi, j'ai un livre épais comme ça, qui parle des différentes visions du monde. Alors, vous avez une vision hindouiste, bouddhiste, vous avez une vision New Age, vous avez une vision islamique, vous avez plein de toutes sortes de visions différentes. Et puis il y a une vision biblique du monde. Et je peux vous dire que selon la nature des verres correcteurs que vous mettez sur votre monture, vous n'aurez pas la même vision du monde. Et cela ne vous conduira pas au même endroit, que ce soit au niveau de l'anthropologie, au niveau bien sûr de l'éthique, la manière dont on se comporte, que cela soit au niveau de la théologie et les grandes questions existentielles de la vie auxquelles il faut trouver une réponse cohérente et pertinente. D'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis sur la terre et qu'est-ce qui se passe après la mort. Voilà. Donc, Jésus, dans son discours, après avoir parlé du caractère moral et spirituel du membre du royaume, Matthieu 5, 3 à 12, après avoir parlé de son influence et son rôle dans le monde, lumière du monde, celle de la terre, une question de vision, aborde donc dans ces versets 17 à 48 l'échelle de valeur du membre du royaume. Et tout commence par l'attitude que l'on a à l'égard de la parole de Dieu. Alors, le chrétien et son échelle des valeurs, une question d'intégrité. Et Jésus plaide pour une cohérence, pour une adéquation entre ce que nous croyons et la manière dont cela se traduit dans notre comportement. Ou si vous voulez, quel référentiel éthique, quelle échelle de valeur nous adoptons qui va dicter un comportement. Et si vous voulez, on pourrait faire plusieurs cercles concentriques. Le cercle le plus large, c'est mes convictions. Mes valeurs. Le premier cercle le plus large, ce serait ma vision du monde. Et de ma vision du monde va découler mes valeurs, mes convictions, et puis mon comportement au final. Alors, Jésus, d'entrée de jeu, va parler de l'autorité de la Bible, fondement de l'éthique chrétienne, dans les versets 17 à 20. Et en somme, la question qui est posée, c'est le chrétien et son rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est une question d'attitude. Une question d'attitude. Dis-moi, quelle attitude tu adoptes vis-à-vis de la parole de Dieu, ou comment tu traites la parole de Dieu, et je te dirai qui tu es. C'est pas plus compliqué. Dis-moi quelle est ton attitude face à la parole de Dieu, et je te dirai quel est le rapport que tu entretiens avec le Dieu de la parole. C'est la question fondamentale. Et on va voir que on peut pas dire « moi, je crois en Dieu », Jésus, ok, la Bible, d'accord, mais l'Église, non merci. Parce que tout cela, ça forme un seul et même package. Et tout à l'heure, je parlais des évangéliques, et on s'est rendu compte dans les derniers recensements de la population évangélique qu'il y avait dans notre pays de plus en plus de personnes qui professaient, adhéraient à la mouvance évangélique, mais qui prétendaient pouvoir vivre leur vie chrétienne solo ou comme des Robinson Crusoe tout seuls sur leur île en dehors de l'Église. Et on va voir que, bibliquement parlant, c'est pas tenable comme discours, parce que ça forme un tout. Si je crois que Dieu a créé le monde, si je crois que je suis pécheur et que le seul moyen, la seule planche de salut, c'est Jésus, et si je crois que Jésus est la parole faite chair et que la Bible est la parole faite livre, eh bien dans le package, je vais comprendre la nécessité de me repentir, de devenir un enfant de Dieu, d'être adopté dans la famille de Dieu, et je signe du coup pour la doctrine de l'Église, dans la famille de Dieu. Ça forme un tout. Ce n'est pas sécable ou dissociable. Alors, voilà donc ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 17 et suivant. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Voilà, vous pouvez relire les versets pendant que... Voilà. Eh ben, elle est fatiguée. Hein. Pourtant, les piles sont... Voilà. Verset 19. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc, Jésus va parler dans les versets qui suivent de l'éthique du royaume. Mais avant de parler de l'éthique du royaume, il commence au bon endroit. Il situe la place et l'importance que la parole de Dieu doit avoir pour servir de socle ou de fondement à notre éthique. Et d'ailleurs, dans chaque domaine de nos pratiques, il faut se poser la question, quelle est la théologie qui sous-tend notre pratique? Pour quelle raison, dans l'Église, faisons-nous telle ou telle chose? Sur quel principe biblique est-ce que cela repose? Si vous voulez, la théologie, c'est le fondement, et l'éthique, ou les autres doctrines de la théologie systématique, sont censées reposer sur ce fondement, et se baser sur ce fondement. Alors, dans les versets 17 à 20, Jésus pose des points très importants. Au verset 17, il va souligner la prééminence de l'Écriture. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Autrement dit, Jésus dit « La loi de Dieu, elle subsiste, elle demeure. » Et ça ne change pas d'un pouce. Moïse avait déjà prédit que l'Éternel susciterait un prophète comme lui qui annoncerait au peuple la parole de Dieu, Deutéronome 18, versets 15 à 18. Eh bien, entendant Jésus enseigner avec tant d'autorité, certains se demandaient, mais comment situer Jésus par rapport à Moïse? Entre Jésus et Moïse, y a-t-il rupture ou y a-t-il continuité? Y a-t-il similitude ou y a-t-il contradiction? Et Jésus présenter ce qu'on appelle les six antithèses. Vous avez entendu que, mais moi je vous dis. Alors, certains ont pensé que Jésus prenait le contre-pied de Moïse en disant, Moïse vous a dit ceci, mais oubliez, effacez tout, on recommence, moi je vous dis cela. Non. On va voir, et exemple biblique à l'appui, que Jésus ne va pas dire le contraire de ce que Moïse a dit, parce que la volonté de Dieu sous Moïse ou du temps de Jésus ne varie pas d'un pouce, seulement, il y a une nuance. Dans la Nouvelle Alliance, les privilèges qui sont les nôtres étant qualitativement bien supérieurs, eh bien, les exigences requises sont d'autant plus, on va dire, exigeantes. Et on va voir. Et donc, Jésus va plus loin que ce que Moïse a pu dire. Et en cela, Jésus accomplit ce que Moïse a annoncé dans son enseignement. Alors, je ne suis pas venu à abolir, mais accomplir. Abolir, c'est détruire complètement, rejeter, anéantir, réduire à néant. Jésus n'est pas venu détruire ce que Moïse a construit. Accomplir la loi, ce n'est pas seulement la garder ou la pratiquer, mais c'est le fait de mener à son terme un processus déjà en cours. Dieu, en Jésus, Dieu a accompli toutes ses promesses, et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et en Jésus, l'Écriture trouve sa pleine réalisation, toute sa plénitude et son sens. Si vous voulez, c'est le fruit qui est parvenu à son terme, à la pleine maturité. Et donc, l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus, le Nouveau Testament la réalise et en déduit toutes les conséquences. Et on peut dire que Jésus constitue la colonne vertébrale de l'Écriture. Autant dire que c'est dans sa personne que s'articule la réalisation de toute la révélation biblique. Alors Jésus a accompli la loi. Il y avait un enseignement doctrinal dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des prédictions prophétiques que Jésus a accomplies. Et puis, il y avait des commandements, des préceptes éthiques, d'ordre moral. Jésus est le seul à avoir pu mettre en pratique, de A jusqu'à Z, la morale des 10 commandements. Maintenant, comment Jésus accomplit les Écritures ? Eh bien, par son enseignement, par ses œuvres, par son style de vie, par sa mort à la croix, et puis par la vie de l'Esprit. Alors c'est intéressant de remarquer l'attitude profondément respectueuse de Jésus à l'égard de l'Écriture, qu'il tient en haute considération. Jésus cite très fréquemment dans son enseignement l'Écriture. Il se base sur l'Ancien Testament pour étayer nombre de ses arguments, et notamment dans son sermon sur la montagne, il y a de nombreux exemples. Et particulièrement dans les controverses qu'il a eues avec les pharisiens, Jésus s'est basé sur l'Écriture. Alors, Jésus souligne au plus haut point l'immutabilité de l'Écriture, à savoir que elle ne change pas. Et il dit bien que ne vous attendez pas à ce qu'un seul point sur un i ne tombe, ne disparaisse. Ne vous attendez pas à ce qu'un seul trait de lettre de la loi, en français on dirait la barre d'un T, ne disparaisse, puisque la parole de Dieu, elle demeure, elle subsiste éternellement. Donc, Jésus tient en haute estime l'Écriture. À ses yeux, elle a son importance et c'est elle qui doit être prééminente, être en premier lieu. Au temps des réformateurs, au XVIe siècle, il y a eu un grand débat à savoir qui détient l'autorité suprême. Est-ce que c'est l'Église ou est-ce que c'est la Bible? Et les réformateurs n'ont pas lâché sur ce morceau en disant, à la suite de saint Augustin, que l'Écriture est la mère et l'Église est la fille. L'Église fait autorité dans la mesure où elle est soumise à l'autorité de l'Écriture. Ça a été la voie défendue par les réformateurs, on les a appelés les protestants, alors que l'Église catholique romaine avait la pratique inverse, elle considérait que l'autorité suprême résidait dans le magistère, dans l'Église en tant qu'institution, et que la Bible avait autorité dans la mesure où l'Église reconnaissait à l'Écriture une autorité. Donc, on ne se situe pas du tout dans les mêmes paradigmes. Au verset 18, Jésus souligne l'autorité et la permanence de l'Écriture. Je l'ai dit, le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet en grec. En français, on pourrait dire ça représente une apostrophe. Et le trait de lettre dont il est question dans l'alphabet hébreu correspond à un accent en français ou la barre d'un T. Eh bien, Jésus dit, ne vous attendez pas à ce que un point sur un I ou une barre d'un T ou une apostrophe disparaisse de la loi parce que la parole de Dieu, elle est immuable. Et tant que la terre continue de tourner autour du soleil, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un seul point sur un I et une seule barre d'un T disparaissent. Alors cela en dit long sur le caractère immuable de l'Écriture. Alors, l'autorité et l'inspiration littérale signifie que nous croyons que Dieu a inspiré les auteurs sacrés, non seulement pour transmettre la pensée de Dieu dans un langage humain, mais Dieu, l'Esprit de Dieu les a conduit les auteurs sacrés pour choisir le mot qui était le plus apte à communiquer dans un langage humain la pensée de Dieu, dans les écrits originaux. Les traductions peuvent présenter leurs lacunes ou des points de faille, mais en tout cas, les protestants évangéliques adhère au dogme de l'inspiration et l'autorité des Écritures, l'inspiration littérale, verbale et plénière. Plénière, ça veut dire, les évangéliques croient que du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, nous croyons que dans les écrits originaux, ce qui constitue nos 66 livres, constitue la parole de Dieu révélée. La parole faite livre. Alors, vous allez trouver des gens qui vont vous dire, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle la contient. Parce que certains vous diront, moi, quand ça me parle à moi, c'est parole de Dieu pour moi. Ben oui, mais à ce compte-là, chacun prend ce qui l'arrange et il laisse ce qui le dérange. Hein. C'est du bricolage et chacun fait ses courses, choisit la marque de son pot de yaourt ou de je ne sais quoi. Non. Alors, dès qu'on accepte l'Ancien Testament, on ne peut qu'accepter le Nouveau. Parce que la parole faite livre forme un tout. De même, la parole faite chair. D'ailleurs, on observe dans l'histoire que ceux qui s'attaquent à la parole faite livre, immanquablement s'attaquent à la parole faite chair. Et encore une fois, on ne peut pas dire j'accepte l'un, mais je refuse l'autre. Alors, on considère que Jésus, dans son enseignement, relaté dans les évangiles, a fait au moins 64 fois allusion à l'Ancien Testament. Et Jésus s'en réfère, pour lui, ça fait pleinement autorité. Ça ne fait nullement l'ombre d'un doute. Et Jésus cautionne l'historicité d'événements relatés dans l'Écriture ou dans l'Ancien Testament que la critique moderne et libérale au XIXe siècle a remis en question. Au XIXe siècle, il y a eu des théologiens qui ont dit, mais finalement, Dieu n'a pas dit véritablement ce qu'il a dit. Hein, mais ça, c'est une vieille histoire, hein, on l'a déjà entendu dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit, hein? Ça, c'était la parole du serpent, et il faut voir le D du diable et le S de Satan derrière cette mise en question de l'autorité de la parole de Dieu. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au XIXe siècle, il y a des théologiens, d'ailleurs, qui sont arrivés à la conclusion que Dieu est mort, Dieu n'existe pas, et il n'a pas dit vraiment ce qu'il a dit. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus cautionne la validité et l'historicité de récits qui nous sont relatés dans l'Ancien Testament que la critique libérale et moderne du XIXe siècle a remis en doute. Par exemple, pour Jésus, c'est clair que Dieu a créé Adam et Ève, nos premiers parents, et il va se référant à l'institution du mariage et à la création de Adam et de Ève, eh bien, il va valider la doctrine biblique du mariage. De même, Jésus va cautionner l'historicité de Noé. Et puis de Jonas, 3 jours et 3 nuits dans, il n'a pas dit que c'était une baleine, mais un gros poisson. Alors vous voyez, je trouve il y a un point d'humour là, quand les théologiens modernistes ont voulu nous dire non, mais l'histoire de Adam et Ève, l'histoire de Noé, le déluge, et l'histoire de Jonas, c'est un peu trop gros pour être avalé. Excusez-moi, mais pour Jésus, cela ne faisait nullement doute, ça ne posait nullement question. On voit jusqu'où va l'attitude ô combien respectueuse de Jésus vis-à-vis de l'Écriture sainte. Et l'histoire de l'Église nous enseigne que chaque génération doit mouiller le maillot et mener un combat pour réaffirmer haut et fort que Dieu a réellement dit ce qu'il a dit. Et l'inspiration et l'autorité des Écritures, c'est un cheval de bataille sur lequel un évangélique n'a pas le droit de lâcher du lest. C'est pas une question à négocier, à discuter, c'est à prendre ou c'est à laisser, en l'état, point barre, à la ligne. Et encore une fois, l'attitude de Jésus, elle est remarquable. Alors, si vous voulez approfondir cette question, le grand classique en la matière, hein, et vous pouvez le commander auprès de votre librairie, c'est l'inspiration et l'autorité des Écritures de René Pache, qui a été le fondateur de l'institut où votre vénérable pasteur a étudié, et d'autres, hein, à Emmaüs en Suisse. Donc ça reste un classique, et c'est un de ses ouvrages qui, même, qui a été traduit en anglais, alors on est plus souvent habitué dans le sens inverse. C'est vous dire à quel point ça peut faire un très joli cadeau d'anniversaire à quelqu'un que vous aimez. Voilà. Mais il y a Noël bientôt. Au verset 19, Jésus parle de la pertinence de l'Écriture. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La question, je vous l'ai dit, est de savoir, est-ce que l'autorité de l'Écriture, elle fait sens dans ma vie? À moins d'être schizophrène, théologiquement parlant, je ne peux pas dissocier ce que je crois dans ma tête et ce que je vis dans mon cœur. Il doit y avoir une cohérence. Si je crois que la Bible est la parole de Dieu, cela m'amène à mettre ma vie en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est là où ça coince pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens vous diront, ah non, mais Jésus, formidable ce qu'il a dit, non mais c'est super, hein, surtout pour mon voisin et ma voisine. Mais moi, ça ne me touche pas d'un poil et moi, je change rien à ma manière de vivre. Ah, ben oui, ben, les gens ont tout compris, hein, ils savent là où ça fait mal. Mais en tout cas, si je crois que la Bible, elle est la parole de Dieu, qu'elle fait autorité, je dois mettre ma vie en conformité avec, il est écrit. Et dans la mesure où je le fais, je suis qualifié pour pouvoir dire aux autres, voilà ce que dit la Bible, voilà ce que moi j'apprends à mettre en pratique, frères et sœurs, moi je vous encourage à faire de même. Et je crois que, comme dit Paul en 1 Corinthiens 11:1, frères, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Et Paul imitait Jésus, c'était son modèle, son mentor, son... Et il dit, moi, voilà, par la grâce de Dieu, j'oublie ce qui est en arrière, mais je cours ce qui est en avant, et j'ai pas encore atteint la perfection, mais je continue, priez pour moi, je vise à imiter Jésus, eh bien, ce que vous me voyez faire, faites-le, et le Dieu de paix sera en vous. Ben là, on est dans la cour des grands, ça, c'est de la vraie pédagogie, c'est pas, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, hein, voilà. Donc, Jésus nous enseigne dans ce verset que, si je considère que dans la Bible, il y a des choses importantes et d'autres qui ne me concernent pas, je les mets de côté, eh bien, non seulement je vais être hypocrite parce que je ne vais pas mettre ma vie en conformité dans les points que moi je juge secondaires, mais je pourrais, à moins d'être hypocrite, je ne pourrais pas dire, la Bible dit ça, mais vous pouvez faire cela, le contraire. Et je trouve qu'il y a un bel exemple dans Esdras, chapitre 7, verset 10, où il nous est dit que Esdras prenait grand soin, 1, d'étudier la loi de l'Éternel, 2, de l'appliquer, et 3, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Esdras 7, verset 10, 1, étudier la loi de l'Éternel, 2, l'appliquer, et 3, l'enseigner. Ben voilà le mot d'ordre pour un prédicateur fidèle. Étudier la parole de Dieu, la mettre en pratique dans sa vie, et puis l'enseigner. Si je ne la mets pas en pratique, je suis un hypocrite si je l'enseigne, puisque j'enseigne quelque chose que je ne vis pas. Et si je ne la mets pas en pratique, je ne peux pas être crédible, cohérent, intègre, si j'enseigne le contraire de ce que je vis. Alors bien sûr, il faut prier pour des prédicateurs, c'est une grande responsabilité. Et Jacques 2 nous dit bien qu'il ne faut pas être trop nombreux à vouloir convoiter le ministère d'enseignement, parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Pardon, Jacques chapitre 3, versets 1 et 2. Et c'est là où il a cette tirade sur savoir maîtriser sa langue. Donc Jésus dit ici que dans le royaume de Dieu, la grandeur d'un disciple se mesure à son degré de conformité et de fidélité à la parole de Dieu. Alors si Jésus n'est pas venu pour abolir l'Écriture, ses disciples ne doivent surtout pas s'offrir ce luxe. Et c'est là où on voit la finalité, après la pertinence de l'Écriture, verset 20, la finalité, oh là là, ne regardez pas, verset 20, l'incidence et la finalité de l'Écriture, Jésus dit, je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, au final, le but, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, en prenant conscience de la parole de Dieu, en la mettant en pratique et en enseignant ce qu'elle enseigne. Et là, cette parole a dû siffler, faire siffler les oreilles des scribes et des pharisiens qui en prenaient pour leur grade. Les pharisiens disaient entre eux, si deux hommes seulement pourront entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, obligatoirement, l'un sera pharisien et l'autre sadducéen. C'est pour vous dire à quel point ils se croyaient sortis de la cuisse de Jupiter. Et Jésus va censurer leur justice, leur religiosité, en dénonçant leur hypocrisie. Et on voit la contradiction, l'opposition entre la justice des œuvres ou de l'homme, livrée à ses propres ressources, et la justice imputée par l'œuvre du Christ à la croix. La justice des hommes, la propre justice, elle est produite par la chair. La justice que Dieu impute aux croyants, elle résulte de l'œuvre de Jésus à la croix. La justice des hommes, elle est obtenue par les œuvres. Celle que Dieu impute, elle est imputée en raison de la foi qui sauve. La justice des propres justes, elle est superficielle et extérieure essentiellement. Celle que Dieu nous impute, elle est avant tout intérieure. Elle se préoccupe du cœur et non pas des questions rituelles, cérémonielles, somme toute secondaires. La justice de l'homme religieux, c'est une justice qui procure sa gloire personnelle. Alors que la justice que Dieu nous impute par Jésus-Christ, elle glorifie le Seigneur. Et puis, la justice des gens religieux qui ne passent pas par la repentance, précisément, elle exclut la repentance. Alors que la justice que Dieu impute aux croyants, elle passe par la repentance. Et ça, c'est incontournable. Et puis enfin, et c'est ça le pire, vous avez des gens hyper religieux, mais qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, et leur vie religieuse ou leur religiosité ne change rien à leur statut de pécheur devant Dieu. Alors que la justice que Dieu impute aux croyants, la bonne nouvelle, c'est qu'elle change son statut, et lui qui était un enfant objet de la colère de Dieu, est devenu un membre à part entière de la famille de Dieu, il est devenu enfant de Dieu. Donc vous voyez, le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, cette opposition flagrante entre la justice qui vient des œuvres et celle qui était l'apanage des scribes et des pharisiens, les gens religieux mais qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés et qui ne voulaient surtout pas de Jésus comme sauveur, et la justice imputée par le Saint-Esprit et qui découle de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, on ne se trouve pas au même endroit. Alors, la prééminence de l'Écriture, la permanence de l'Écriture, sa pertinence et son incidence, et puis, dans les versets 21 à 48 que nous allons voir maintenant, Jésus, me semble-t-il, parle de l'excellence de l'Écriture. Et dans sa controverse avec les scribes et les pharisiens, dans cette joute théologique avec les gens religieux, Jésus va se baser sur l'Écriture. Alors aujourd'hui, dans l'évangélisation, il y a un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense de la foi chrétienne. Ou si vous voulez, l'apologétique a pour objet de présenter des arguments bibliques qui tiennent la route, qui expliquent la raison pour laquelle nous avons raison de croire ce que nous croyons, dans la mesure où c'est basé sur la parole de Dieu. Et l'apologétique, ça devient une branche, en tout cas en France, de plus en plus développé. Et dans l'évangélisation, j'allais dire, bon, avant on était comme Monsieur Jourdain, on faisait de la prose sans le savoir. Mais aujourd'hui, il y a des cours spécialisés d'apologétique. Alors, on l'a déjà vu dans les Béatitudes, Jésus a mis l'accent sur la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Par opposition aux exigences de la religion institutionnelle qui mettait l'accent essentiellement sur des critères extérieurs, rituels, cérémoniels. Et on va le voir dans cette discussion que Jésus va avoir avec les scribes et les pharisiens, il va prendre à partie leur l'interprétation de l'écriture qu'ils ont donnée et l'enseignement erroné que les scribes et les pharisiens présentaient au peuple. Tout à l'heure, j'ai dit que il y a des gens qui pensent que quand Jésus dit « Vous avez entendu que, mais moi je vous dis », il y a des gens qui pensent que Jésus dit « Non, non, mais ce que Moïse vous a dit, oubliez, maintenant ce qui compte, c'est ce que moi je vais vous dire ». Non, il n'y a pas de rupture entre Jésus et Moïse. La volonté de Dieu, entre Moïse et Jésus, elle n'a pas varié d'un pouce. Seulement, au temps de Jésus, les exigences de la volonté de Dieu vont nous pousser davantage dans nos retranchements. Et Jésus, dans ces controverses qui suivent, dans les versets 21 à 48, Jésus ne va pas s'opposer à Moïse, mais il va dénoncer l'enseignement erroné que les scribes et les pharisiens avaient donné de la Torah, de la loi de Moïse. Autrement dit, Jésus dit, vous avez entendu, c'est-à-dire vos scribes et vos pharisiens, ils vous ont raconté ceci. Eh bien, moi je vous dis, et Jésus va rectifier l'enseignement erroné des scribes et des pharisiens. Et Jésus va prendre 6 exemples concrets, tirés de la Torah. Et il va montrer la différence entre, finalement, la justice de l'homme religieux qui considère qu'il n'a pas besoin de se repentir, la religion incarnée par les scribes et les pharisiens, qu'il va contraster avec la justice que Dieu impute par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus. Et on appelle ça les 6 antithèses. Une antithèse, c'est quoi? Une antithèse, c'est une déclaration contraire. Vous avez entendu que vos scribes et vos pharisiens, ils vous ont dit que la Torah, elle enseigne ceci. Eh bien moi, je m'inscris en faux. Faux. Usage de faux. Abus de biens spirituels, pour ainsi dire. Jésus s'exclame et il va dénoncer l'interprétation erronée des scribes et des pharisiens. Et il va dire, voilà ce qu'il fallait entendre, voilà ce qu'il fallait comprendre. Et n'écoutez pas l'enseignement frelaté, erroné des scribes et des pharisiens qui vous mènent dans le mur. Vous avez entendu que, mais moi je vous dis, voici la bonne clé pour interpréter la volonté de Dieu. Et donc, on parle des 6 antithèses. Bon, ceux qui se souviennent du bac de philo, hein, la méthode hegélienne, c'est thèse, antithèse, synthèse. On ne va pas rappeler les souvenirs. Mais en tout cas, retenez simplement qu'une antithèse, c'est une déclaration contraire. Et Jésus va rectifier des erreurs de théologie. Vous savez, on vit à une époque où on entend dire « Ah, vous savez, la théologie, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la vie. » Hein. Ben oui, mais encore une fois, derrière la vie, il y a un soubassement. Et c'est la théologie. Et il ne faut pas avoir peur des mots. Si ma théologie, elle est erronée, mon éthique va être décalée. Allez, un petit rappel. Séquence émotion, séquence souvenir. Rappelez-vous quand le maître d'école vous disait de tracer un angle de 36 degrés. Alors là, on sortait, hein, on avait encore les compas, le rapporteur, l'équerre, fallait pas oublier. Hein. Alors vous sortez votre rapporteur, et si au lieu de faire 36 degrés, vous faites 36 degrés 5, ou 35 degrés 5. Au début, on voit pas beaucoup de différence, hein. Mais si vous devez, bon, je vous dis pas jusqu'à l'infini, hein, parce que on n'y arrivera pas. Mais vous avez compris que tôt ou tard, il y a un décalage par rapport à. Eh bien, Jésus va rectifier, va corriger l'enseignement erroné des scribes et des pharisiens. Et on va voir que ça nous mène pas du tout au même endroit. Et nombre de pathologies dans la vie spirituelle et dans la vie des églises ont souvent leur source dans des erreurs de théologie. Bon, alors je sais bien que parfois aussi dans les églises, quand il y a des controverses ou des disputes ou des conflits, on met beaucoup de choses sur le dos de la doctrine. Bon, bien sûr, la doctrine, elle a le dos large, hein. C'est un peu comme les pauvres mamans dans les familles. La maman, elle est au carrefour de tout ce qui se passe. Même si le chat, il a avalé de travers, quelque part, c'est la faute de la maman. Si le papa a perdu ses outils, et là, je donne un témoignage personnel, la première personne vers laquelle on va se tourner, c'est « Qu'est-ce que t'as fait de mon marteau ?» Bon, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas pure coïncidence. Vous pouvez sourire, vous n'êtes pas filmé. Mais c'est de bonne guerre et c'est bien humain. Alors, attitude envers la parole de Dieu. À quoi peut-on reconnaître qu'un chrétien est soumis à l'autorité de la parole de Dieu? Vous avez quelques pistes de réponse? À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un chrétien est soumis à l'autorité de la parole de Dieu? L'obéissance, oui. Le contentement, oui. Il va chercher à la connaître. Il y a des questions qui relèvent de l'éthique ou de la morale, où c'est peut-être pas écrit noir sur blanc dans la parole. Alors on va essayer de trouver des principes. Je prends un exemple très concret. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, jusqu'où, avec ma conscience chrétienne, est-ce que je me sens libre de recourir à la procréation médicalement assistée. Par exemple, vous avez beau chercher dans le Deutéronome, je pense pas que vous allez trouver un texte qui parle de la PMA. Je vais essayer de creuser ma Bible et puis de réfléchir, est-ce qu'il y a des principes qui peuvent m'éclairer? Parce que si on considère que Dieu nous a tout donné dans sa parole, on a besoin de la sagesse de Dieu, l'éclairage du Saint-Esprit, et peut-être aussi le conseil des frères et des sœurs un peu plus éclairés. Donc un chrétien soumis à l'autorité de la parole, il va quand même se poser des bonnes questions, même s'il n'a pas des réponses toutes simples, mais il va pas, vas-y que je te pousse, foncer tête baissée. Et je reviens à la question, dis-moi quelle place la Bible, elle occupe dans ta vie personnelle, je te dirai quelle relation tu entretiens avec le Dieu de la parole. Et quelqu'un a bien dit, la Bible m'éloignera du péché, ou bien le péché m'éloignera de la Bible. Le péché dont je refuse de me repentir. Avez-vous des exemples où les traditions humaines ou religieuses annulent ou remplacent la parole de Dieu? Relisez Matthieu 15. Et Jésus, il y avait les représentants officiels de la religion institutionnelle droit dans leurs bottes. Prenez ombrage du fait que les disciples s'étaient mis à table sans s'être livrés au rituel des ablutions. Et Jésus leur a dit, mais bande d'hypocrites, vous êtes en train de déclencher une guerre mondiale pour une petite broutille, et à côté de ça, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Hein, c'est ce qu'il reprochera dans Matthieu 23. Quand on ne fait pas la différence entre les choses essentielles et les choses secondaires, et quand on considère que les secondaires, elles ont la même importance que les choses essentielles, ben on tombe dans le pharisaïsme. Et on peut facilement avoir des traditions humaines, culturelles, religieuses. Aucune culture n'est supérieure à une autre. Simplement, dans chaque culture, il y a des valeurs compatibles avec l'Évangile et d'autres qui ne le sont pas. Et on ne peut pas rejeter en bloc toute une culture, et Dieu soit béni, dans certaines cultures, il y a des choses qui sont bonnes, mais tout n'est pas à prendre comme argent comptant. Et Vous savez, c'est redoutable quand on a une certaine ancienneté. Y a des traditions, il y a des coutumes, et même dans la vie de l'Église. Et la question qui tue, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme on les fait? Quel est le principe biblique sous-jacent à nos pratiques? Et je peux vous dire que parfois, c'est dans l'Église où nous avons été membres en région parisienne pendant une vingtaine d'années, on avait un règlement intérieur de 63 pages. Ah oui, non, mais c'était la totale, c'était des études bibliques. Et on s'est rendu compte au bout d'un certain temps que, un, personne ne lisait le règlement intérieur, et deux, on n'en appliquait pas la moitié. Donc on s'est dit, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut dégraisser le mammouth. Et pendant une année, moi j'ai animé une commission de 8 personnes, toutes générations confondues, femmes, hommes, etc., membres de l'Église. Et puis on s'est posé des questions redoutables, des questions qui tuent. Mais pourquoi on écrit ça comme ça? Quel est le principe biblique qui est en dessous? Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que de 63 pages, on est arrivé à 9 pages, il y a eu du progrès, mais c'est un peu plus digeste. Hein. Bon, on peut peut-être mieux faire encore, mais c'était très pédagogique. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a expliqué à l'Église, et finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, même si la poste, c'est plus que c'était autrefois, mais enfin, si quelqu'un travaille à la poste, Jésus l'aime et nous aussi. Hein. Mais voilà. Enfin, c'est des bonnes questions à se poser. Et parfois, on traîne des casseroles ou des traditions. C'est comme dans Astérix. On ne sait plus pourquoi il y a un problème entre. Mais enfin, c'est quand si on fait des recherches jusqu'à l'ère du quaternaire. Ouais, du côté de l'arrière-grand-mère, là, il y avait un truc qui était ni catholique, ni orthodoxe, et encore moins évangélique. Et alors là, de génération en génération. Non. Bon, vous avez compris. Alors, première antithèse, verset 21, dans cette échelle de valeurs, voilà. Vaincre la colère qui mène au meurtre. Versets 21 à 26. Alors là, je les énumère rapidement, puis on va les voir un peu plus en détail. Deuxième antithèse, vaincre la convoitise qui mène à l'adultère. Versets 27 à 30. Troisième antithèse, Jésus plaide pour le maintien du lien conjugal. Versets 31 et 32. Quatrième antithèse, Jésus plaide pour une bonne communication, versets 33 à 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Cinquième antithèse, il veut bien, voilà, non mais il faut persévérer, hein. C'est par beaucoup de tribulations qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Cinquième antithèse, non à la vengeance personnelle, versets 38 à 42. Et enfin, dans les versets 43 à 47, la sixième antithèse, oui à l'amour en action, même envers ses ennemis. Alors on va reprendre chacune de ces antithèses, et là pour lier la gerbe, c'est la cerise sur le gâteau, verset 48, l'excellence de l'éthique chrétienne, Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et bien quand on a dit ça, j'allais dire, la messe est dite, il n'y a plus qu'à, et puis que Dieu vous soit en aide, nous soit en aide. Alors voilà. Donc, première antithèse, verset 21. Vous avez appris qu'il était dit, Jésus dit, ça c'est ce que vos scribes et vos rabbins vous ont raconté. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Ok, ça c'est bon. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice, et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Waouh, c'est du lourd, et ça décape, comme toujours, quand Jésus parle, ça tape dans le mille. Et dans les versets 21 à 26, Jésus parle de vaincre, la nécessité de vaincre la colère qui mène au meurtre. Et dans les versets 21 à 22, Jésus nous dresse le portrait robot d'un criminel. Vous savez, les crimes passionnels ou les choses qui relèvent de la cour d'assises, qui défraient la chronique de nos quotidiens, souvent on est étonné d'apprendre « Ah non, mais c'était le voisin idéal, hein. Il n'aurait jamais fait de mal à une mouche, il nous disait toujours bonjour, il était souriant, toujours prêt à rendre service, et les gens tombent de haut quand du jour au lendemain, waouh, c'est la tuile, ils se rendent compte qu'il a assassiné sa femme, ou alors il a violé un enfant, ou je ne sais quoi. Autrefois, on voyait encore, attention, un train peut en cacher un autre. » Alors dans ces versets, ces décapants, Jésus nous dit que on peut être un criminel de la pire espèce, sans avoir de sang sur les mains, sans cacher de cadavre dans un placard ou dans le coffre de sa voiture, comme on entend dire parfois. Ça fait froid dans le dos. Et sans avoir de kalachnikov ou de fusil de chasse chargé avec des chevrotines sous son lit, on peut être un criminel de la pire espèce dès lors qu'on n'apprend pas à maîtriser ce petit bout d'affaire qu'on a entre les deux maxillaires, qui s'appelle la langue. Et Jésus dit, celui qui dit imbécile, et je pense que là il est très soft, hein. Je vous fais grâce ici de tous les petits noms d'oiseaux dont la langue de Victor Hugo est pourvue. Nos petits séraphins, nos petits bambins, nos petits gredins, nos petits diablotins, dans la cour de récréation, école maternelle, petite section, connaissent le répertoire. À se demander d'où ils l'ont entendu, c'est une autre question, ouverte. Le registre de la communication, c'est dans le « t'es nul, t'es bête, t'es moche ». Et je suis poli. Hein. « T'es nul, t'es bête, t'es moche ». Grosso modo, je résume hein, à grands traits, c'est le mode de communication dans lequel on baigne. Et la jeune génération, et on ne va pas accuser les jeunes seulement, hein. Aujourd'hui, les humoristes... Si vous cherchez un métier lucratif dans l'immédiat, postulez pour être humoriste, hein, parce qu'on en cherche. Hein, et moi, j'observe que sur les chaînes de radio, je crois savoir même à la télé, chacun rivalise avec son humoriste, parce que les gens, il y en a marre de la crise, il faut rêver, il faut changer d'air, et puis il faut se taper un bon délire, et puis ça aide à passer la journée, hein, voilà, on va... Mais c'est ça, hein. Et le mode de la communication, c'est dans le registre négatif. T'es nul, t'es bête, t'es moche. Le psychologue chrétien James Dobson, dans les années 1980, il avait fait des recherches chez les chrétiens nord-américains. Et pourtant, Dieu sait si en Amérique du Nord, s'il n'y a pas des magasins Carrefour, là-bas, nos amis américains, chez l'oncle Tom, ils ont le don de positiver. Et Dobson était arrivé à cette conclusion suivante. Il disait, 80% de la communication dans les familles chrétiennes en Amérique du Nord dans les années 80, c'est dans le registre négatif. Des reproches, des critiques, des remontrances. T'as rangé ta chambre? T'as brossé tes dents? T'as fait tes devoirs? Moi, on a 5 enfants et j'ai l'impression que parfois être père de famille, c'était faire de la répression policière. On demandait les papiers à tout ce qui bougeait autour de soi. Sauf aux chiens. Tout juste, tout juste. Et il dit 20% seulement de paroles positives. Et il dit, on devrait inverser le ratio. Alors, je ne vous dis pas en France. Blaise Pascal disait bien que le moi est haïssable. On assassine la personne et on jette le bébé avec l'eau du bain. Un élève sur 100 mots où il y a 25 mots de juste en France, la pédagogie, c'est tu as fait 75 fautes. Il y a une autre manière de voir le verre à moitié plein. Tu as 25 mots qui sont justes. Et ça, ça change tout. Hein. Quelqu'un dit « Nos critiques devraient être écrites dans le sable et nos compliments dans le marbre. » Moi, je trouve que c'est plus facile de faire le contraire. Hein. Mark Twain disait « Avec une parole positive d'encouragement, je peux résister à l'hiver le plus rigoureux. » Et au Canada, ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. C'était pas des... Moi, j'ai un ami qui est là-bas. Moins 40, c'est normal, quoi. Vous voyez, trois fois ce que vous avez dans votre congélateur. Presque trois fois, deux fois et demi. Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, quand il a commencé son ministère, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui saura dire le pouvoir bienfaisant de motivation d'une parole de bénédiction? Par contre, on connaît tous le poids redoutable d'une parole de malédiction. Et des gens qui ont fait subir et qui ont infligé des prophéties de malheur à des enfants, t'es un nul, t'es un bon à rien, on n'arrivera jamais à quoi que ce soit. Donc Jésus dit que le membre du royaume, c'est quelqu'un qui sait maîtriser et contrôler sa langue. Et là, on est dans la sagesse du livre des Proverbes. Alors vous savez, les scribes et les pharisiens, ils étaient droits dans leurs bottes, et la loi de Moïse disait, il ne faut pas donner plus de 40 coups de bâton, parce qu'après tu vas avilir ton prochain. Alors eux, pour être sûrs qu'ils ne dépassaient pas les 40, ben c'est 40 moins 1. Hein. Bon, on va le bastonner jusqu'à 39 coups. Remarquez, bon, le 40e coup, ça pouvait être le coup, celui qui donnait le coup de grâce, mais enfin, je peux pas donner de témoignage personnel, mais entre 39 coups ou 40, je vois pas trop où est la différence. Eh bien, pour Jésus, sans donner des coups de bâton à quelqu'un, alors Dieu merci, on a compris, on a mis du temps à le comprendre. C'est pas si lointain que ça. On a enfin reconnu que la violence, il y a la violence physique, ça on connaît, mais il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique avec le harcèlement. Et Dieu sait si le harcèlement psychologique ou même verbal, ça peut faire encore plus de mal parfois que la violence physique. Alors à ce compte-là, bien la planète elle est peuplée de criminels multirécidivistes qui vivent dans l'impunité et la liberté les plus totales. Et faites attention à côté de qui vous vous asseyez quand vous prenez l'autobus, parce que sans laisser de cadavres derrière soi, on a tous du sang sur les mains. On vit dans un monde qui maintient constamment le doigt sur la gâchette pour tirer sur tout ce qui bouge. Et la culture en Occident, elle assassine sans embâge l'être humain à une époque où la moquerie, la critique, la dérision, l'humiliation sont pratiquées comme un sport national. Mais remarquez, soyons clairs, dès lors qu'au début de la vie, avec les chiffres de l'avortement alarmants, on assassine la personne, évidemment, plus tard, même si c'est pas physique, verbalement ou psychologiquement, le résultat sera là. Oui à la juste et sainte colère de l'amour. Alors, Jésus, pour autant, n'a pas hésité à interpeller les responsables religieux de son temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Matthieu 23. Jésus a traité, et il les a même traités de serpents, race de vipères. Mais c'était pas une colère incontrôlée, maîtrisée. Jésus n'avait aucun intérêt personnel à défendre. Jésus a traité le roi Hérode de renard. C'était pas un compliment. Luc 13, 32. Il a reproché aux disciples d'Emmaüs d'être des hommes sans intelligence. Luc 24, 25. Et Paul a osé dire au souverain sacrificateur, Dieu te frappera muraille blanchie. Allez traiter votre employeur de muraille blanchie. Acte 23, verset 3. Et puis on pourrait parler des psaumes imprécatoires dans l'Ancien Testament. Dans Ephésiens 5, Paul a raison quand il dit qu'il est possible de se mettre en colère, mais sans pour autant commettre de péché. Il y a la juste et sainte colère. Et la colère est un attribut de Dieu. Mais c'est une colère maîtrisée, et ce qui déclenche la colère de Dieu, c'est le péché de sa créature. Et si nous devrions être animés par la colère de Dieu en dénonçant le péché qui déclenche la colère de Dieu, d'abord dans notre propre vie, avant de le faire dans la vie des autres. Alors Jésus parle de l'indispensable réconciliation, versets 23 à 26. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc là, le cadre, le contexte, c'est celui encore de l'Ancienne Alliance, où un craignant Dieu ou un juif offrait à Dieu une offrande, un sacrifice, pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors, nous, si on transpose ça dans notre contexte ecclésial de la Nouvelle Alliance, c'est, on est dimanche matin, on est au culte, les hommes ont leur belle cravate, même si, maintenant, c'est... je chante « Je louerai l'Éternel » et « Je loue le Seigneur de tout mon cœur » et puis, en louant le Seigneur, mon regard croise le regard du frère X ou de la sœur Y. Et entre nous, il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'était pas catholique, et pas orthodoxe, et encore moins évangélique. Et après, on va prendre la Sainte Cène ensemble. Et bien, Jésus dit non, faut arrêter le spectacle, le cinéma, faut pas se la jouer, comme diraient les jeunes. Il faut résoudre le problème. Prendre le taureau par les cornes. Et trop souvent, on pense que laisser courir, ça va résoudre. Eh ben non, parce que laisser courir, c'est laisser pourrir. Et puis ça va s'envenimer. C'est comme une plaie qui est ouverte. Si on n'intervient pas au bon moment, elle va s'infecter et puis ça va se répandre partout. Alors moi, ce qui m'interpelle dans cette parole de Jésus, c'est si tu présentes ton offrande à l'autel, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Bon, quelque chose contre toi, c'est pas une petite peccadille, c'est pas une petite broutille. Ah ouais, oh là là, il m'a dit que ma chemise, elle n'était pas assortie avec mon pantalon. Alors là, je l'ai mal pris, hein, vraiment. Non, c'est pas ça qui va empêcher le soleil de tourner autour de la Terre. Hein. Y a personne qui réagit. Non mais j'ai mes trucs, attention, hein. Vous êtes pas filmé, mais vous êtes observé. Je vois ceux qui suivent. J'en ai vu un qui suit. Bon, on est d'accord. Mais moi, ce qui m'interpelle dans ce... Jésus dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il y a des gens, quand il y a une situation conflictuelle, ah non, mais moi, tant qu'il ne vient pas se mettre à genoux devant moi, pour me demander pardon en grec, en latin et en hébreu, moi, je ne bouge pas d'un poil. Hein. C'est, la balle est dans son camp, c'est à lui de... Voilà. C'est pas du tout ce que dit Jésus. Jésus dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Comment tu peux t'endormir le soir si tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux et le frère ou la sœur l'a très mal vécu et elle est blessée. Et tu en prends conscience et tu t'en souviens. Et Jésus ne dit pas, attends qu'il vienne, hein. Et c'est dur ce que dit Jésus. Laisse ton offrande et va te réconcilier. Prends l'initiative d'engager le processus de réconciliation. Les exigences de Jésus sont, on ne peut plus exigeantes. Et franchement, on ne peut pas exiger davantage. Jésus nous demande de payer le prix fort. Et franchement, ce que Jésus nous demande de faire, bien souvent, ça se paye pas en monnaie sonnante et trébuchante. C'est un coût moral, affectif. Notre ego en prend un coup. Notre orgueil, on est obligé de pas seulement de le ravaler, on est obligé de l'écraser. Alors si on refuse ça, il y a des gens qui préfèrent aller au tribunal, payer les yeux de la tête, une procédure qui va durer, qui va coûter. Et la facture au final, déjà au niveau financier, elle est plus que salée. Et puis à côté de ça, il y a une autre facture, de toute façon morale, intérieure, des remords, des souffrances, etc. Donc ce que Jésus préconise, c'est toujours, c'est le remède le plus radical, le plus efficace. Et quand on est assis sur sa chaise et quand le soleil brille et que tout va bien, c'est, on dit oui et amen. Le problème, c'est quand on est concerné en premier par cette parole, waouh. Alors pour Jésus, Jésus dit, dans un tel climat, l'adoration n'est plus possible. L'atmosphère spirituelle, on va dire, de la communauté, là où il y a des problèmes relationnels ou conflictuels non traités, bibliquement parlant, et bibliquement parlant, c'est quoi? Ça veut dire, ben, quelque part, il y a un coupable, il y a une victime ou plusieurs, et les torts, en général, ils sont pas d'un seul côté, c'est partagé. Et je crois savoir que dans un conflit, même si je ne suis responsable qu'à hauteur de 30% du problème que j'ai avec quelqu'un, devant Dieu, je suis responsable d'assumer à 100% les 30% qui m'incombent. Je suis désolé si je vous ai perdu avec cette règle de 3, mais voyez ce que je veux dire, hein, vous m'avez compris. Même, je vous demande pas le résultat, mais si je suis... ma part de responsabilité, c'est 30%. Tant et si bien, il faut pouvoir la quantifier, hein. Ça c'est, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais admettons, 30%, j'ai ma part de responsabilité, eh bien devant Dieu, c'est pour ma pomme, et moi je dois assumer à 100% les 30% qui m'incombent. Maintenant, le reste, c'est plus de mon ressort et à la grâce de Dieu. Mais moi, ce qui m'interpelle, Jésus dit, il faut prendre l'initiative, le membre du royaume va prendre l'initiative, d'enclencher le processus, d'initier le processus de réconciliation et de restauration de la relation qui était brisée. C'est ça le culte en esprit et en vérité. Et Jésus plaide pour un arrangement à l'amiable. Voilà. Bon, je pense que là, il faut faire une pause parce que mon auditoire va être... je vais avoir un conflit avec mon auditoire après. Voilà, et voyez, bon ben, je crois que c'est le moment de prendre la pause, parce que d'ici que la prochaine, ah non, mais je vous dis, hein, bah oui, bah voilà, donc, si quelqu'un a une question ou une pensée qui peut édifier, on va racheter le temps, ou sinon, on va faire la pause, et puis, normalement, à la fin de la pause, ça devrait être bon, hein. Et Philippe, est-ce qu'il arrive à appuyer sur la diapo suivante? Même Philippe? Ah non, alors si Philippe n'y arrive pas, alors là... Bon, ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne pause. Dans combien de temps on se retrouve? À la demi. C'est formidable.